Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les admissions pour maltraitance d'enfants ont augmenté de 50% au printemps dernier par rapport à l'année dernière. Les chercheurs ont patiemment et logiquement analysé les données hospitalières. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Parole ensuite donnée à un franc-comtois frontalier de la Suisse qui passe la frontière pour aller travailler au risque de contaminer son entourage en pleine circulation du Covid-19. La Bourgogne-Franche-Comté est la région de France la plus touchée par l'épidémie. Emmanuel Macron en passe de guérison. Après 7 mois à être isolé, le président pourrait regagner Paris aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette semaine de communication au sommet de l'État. Et puis nous irons dans cette édition en Centrafrique, à 3 jours d'élections dans le pays. La population s'inquiète des violences récentes face aux groupes armés. La violence a bel et bien augmenté en France contre les enfants au sein des cellules familiales pendant le premier confinement au printemps dernier. 7 mois plus tard, une équipe du CHU de Dijon et du Centre de recherche en épidémiologie de Paris-Saclay au sein de l'INSERM documente ce phénomène. Il s'agit, Anne Fauquemberg, d'une vaste étude.
Les chercheurs se sont appuyés sur le programme de médicalisation des systèmes d'information, un dispositif de l'État qui enregistre les données de l'activité des établissements de santé publique comme privés. Ils ont comparé en particulier le nombre d'admissions hospitalières pour violences physiques des enfants de 0 à 5 ans pour les mois de mars et avril dernier, aux chiffres de la même période en 2017, 2018 et 2019. Conclusion, si les hospitalisations des moins de 5 ans ont diminué proportionnellement de 30% par rapport aux années précédentes, les admissions pour maltraitance ont augmenté de 50% selon cette étude. Cela concerne 112 enfants hospitalisés pour des violences graves allant parfois jusqu'au décès. Le neuropédiatre Yann Mikhaïlov, participant de cette étude, poursuit.
Dans les facteurs explicatifs, il y a la dégradation de la santé psychique des adultes qui sont aussi parents. Ça concerne l'alerte des psychiatres est claire, à la fois les patients avec une pathologie psychiatrique chronique qui peuvent décompenser, et ça concerne aussi la population dans son ensemble qui est fragilisée par des facteurs aussi sociaux. Pendant ce premier confinement, ils avaient en plus les enfants à plein temps à la maison.
En l'absence d'école également, premier partenaire pour les maltraitances concernant les enfants, les signalements n'ont pas été aussi nombreux. Cette étude est en attente d'une publication dans la revue américaine Pediatrics. Elle est regardée de près par le secrétaire d'État Adrien Taquet, en charge de l'enfance et des familles.
Une étude qui portait donc sur le premier confinement contre le Covid-19. Il y en a eu, il y en a un autre depuis, un deuxième, depuis un mois et demi maintenant en France. Et c'est à l'heure actuelle l'Est de la France qui est encore la région la plus touchée par le Covid-19, notamment la Bourgogne-Franche-Comté. Les taux de positivité des tests y sont élevés, plus de 9% contre 5% au niveau national. Parmi les départements particulièrement exposés, il y a le Doubs en Bourgogne-Franche-Comté. 30 000 frontaliers passent chaque jour la frontière vers la Suisse. Cette semaine, les mesures sanitaires ont été renforcées en Suisse, mais certains cantons y échappent. C'est le cas du canton de Vaud, où les bars et les restaurants sont actuellement ouverts. Alexandre Bourgeois, 33 ans, marié, père de 2 enfants, habite en France, dans le Doubs, donc à Frasne, près de Pontarlier. Et il se rend chaque jour dans les environs de Lausanne, en Suisse, où il travaille. Oui, dit-il à Bénédicte Robin, oui, il prend des risques.
Le plus difficile pour moi, en fait, ça va être le décollage. C'est-à-dire, dans la même journée, on peut croiser vraiment presque des personnes qui attendent leur test, qui sont confinées à la maison et tout ça. Et puis d'un autre côté, carrément voir des gens en terrasse. C'est un vrai décollage, oui.
Et vous, quand vous travaillez dans votre entreprise, vous allez déjeuner avec vos collègues, vous allez au restaurant, vous faites tout ça?
J'allais de temps en temps au restaurant avant, maintenant plus. Mais du coup, j'emmène ma thermos de café, ma boîte en entre guillemets. Voilà, je fais vraiment pour avoir en fait presque aucun achat à faire et être autonome toute la journée, quoi. J'essaye d'être au moins en contact possible, ouais. Juste mon travail et c'est tout, entre guillemets, ouais.
Est-ce que vous avez l'impression, vous dites, moi en tant que frontalier, je peux amener le Covid en France?
Un peu. Je me suis posé la question, moi, si je continue à aller à la salle de pause d'entreprise à cause de ça, ouais. C'est sûr qu'on se pose des questions. Voilà. voilà, depuis le début, je me dis que les navigations de population comme ça, entre pays, même entre régions, ça aurait pu être limité beaucoup plus. C'est sûr que nous, la région frontalière, tout ce qui est commerce et tout ça, vivent aussi du pouvoir d'achat des Suisses qui viennent faire leur commission en France. Et donc, c'est un peu contradictoire. C'est comme beaucoup de choses, malheureusement, qui se passent en ce moment. C'est un peu compliqué.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Bénédicte Robin en Bourgogne-Franche-Comté pour France Culture. Ce sera difficile de donner de la visibilité sur la réouverture des cinémas et des théâtres pour les prochaines semaines. Voilà ce qu'a affirmé hier soir le Premier ministre dans une lettre adressée à ceux qui font vivre la culture en France. Un peu plus tôt, le Conseil d'État avait décidé de ne pas autoriser la réouverture des salles de spectacle. Jean Castex dit comprendre le désarroi et la colère des artistes. Il promet de trouver des scénarios permettant des modèles d'ouverture graduée des structures concernées. Il est confiné depuis une semaine positif au Covid-19. Emmanuel Macron pourrait toutefois sortir ce matin de la résidence de la Lanterne à Versailles. La santé du président s'améliore, a fait savoir l'Élysée hier. Il pourrait donc revenir à Paris, et ce après une semaine plutôt maîtrisée en termes de communication politique, Rosalie Lafarge.
Transparence et humanisation, ce sont les deux maîtres mots de cette séquence. Depuis une semaine, l'Élysée donne régulièrement des nouvelles de l'état de santé du président. Et dès le deuxième jour de son isolement, Emmanuel Macron lui-même s'empare de son téléphone pour publier une vidéo sur les réseaux sociaux.
Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui.
C'est un épisode de plus qui va être utile au président de la République pour renforcer son lien direct avec les Français.
Florian Silnicki, expert en stratégie de communication et fondateur du groupe La Frenchcom.
Le fait que le président de la République soit atteint, c'est aussi une manière de rappeler que ce président que l'on a cessé de décrire comme Jupiter au-dessus de la mêlée, eh bien, il est d'abord un homme comme les autres. Et ça, c'est intéressant pour Emmanuel Macron et ses conseillers, parce que le président de la République a, avec ses phrases arrogantes, pas longtemps été perçu comme déconnecté de les réalités. Et donc cette situation, c'est aussi un moyen à la fois d'ancrer le président de la République parmi la communauté humaine et donc entre les lignes de combattre les complotismes qui n'ont cessé de s'exprimer durement au point d'abîmer le lien de confiance qui existait entre la parole publique et politique d'un côté et une grande partie des Français de l'autre.
Un président qui fait preuve d'empathie, cherche à renouer le dialogue avec les Français, mais toujours reste au travail, Conseil des ministres, échange avec Vladimir Poutine, réunion en visioconférence. Fatigué et isolé, Emmanuel Macron n'a pas lâché les rênes. Et c'est aussi ça le message de l'Élysée cette semaine.
Qui détient les rênes d'un accord sur le Brexit? La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique travaillent, dit-on à Bruxelles. Ils travaillent d'arrache-pied cette nuit encore pour conclure un accord historique. Quelques détails coincent encore, sur la pêche notamment. Le Brexit prendra effet normalement le 31 décembre. En cas d'accord commercial, les 27 pays membres devront encore le valider. Nous rejoindrons notre correspondante à Bruxelles dans le journal de 7h dans moins d'une demi-heure sur France Culture. Avant cette C'est en Centrafrique que nous nous arrêtons ce matin. Des élections législatives et présidentielles y auront lieu ce dimanche, mais l'inquiétude gagne Bangui. Après l'offensive entamée vendredi dernier par des groupes armés, la sécurité est ultra renforcée dans le pays. Sur place, Charlotte Cosset nous raconte.
Des véhicules de la mission onusienne sont stationnés au point stratégique de la capitale.
Vous voyez des déploiements de forces de sécurité locales, de forces de la MINUSCA, ainsi que des déploiements spéciaux dans les zones sensibles et les points chauds.
Dimitri Chop est le chargé de communication de la force conjointe de la MINUSCA à Bangui. Il assure que la mission patrouille 24 heures sur 24.
Normal patrol, they make in the circle in the area of responsibility.
Lors des patrouilles normales, ils font des cercles dans la zone de responsabilité. Les patrouilles spéciales essaient de choisir différentes routes afin de contrôler les différentes directions pour contrôler la sécurité. Pas uniquement sur les routes principales, mais aussi sur les petites routes de la ville.
Les rues sont clairsemées, beaucoup de commerces fermés.
Je peux le dire, il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation. Normalement, à ce moment de la journée, le trafic est plus important.
Si les activités tournaient au ralenti ce mercredi dans Bangui, c'est parce que dans la matinée, la panique s'est emparée du centre-ville. Une rumeur a annoncé l'arrivée des rebelles, créant une peur incontrôlée chez les habitants. Les rumeurs Un des plus gros défis pour les forces de la MINUSCA, le général de brigade Drissou Kadour, commandant de la force mixte de Bangui.
Ce qu'on peut craindre de plus, c'est d'avoir de fausses informations, ce qui nous demande de fournir beaucoup d'efforts.
Les Centrafricains sont très sensibles aux rumeurs. Le traumatisme des événements de 2013 est toujours très ancré.
Un conflit intercommunautaire avait en effet créé le chaos dans le pays, c'était il y a 7 ans. Charlotte Cosset a signé ce reportage, correspondante de RFI pour France Culture à Bangui. Le temps ce jeudi en France métropolitaine sera marqué par des averses, du vent et des températures en baisse. Seul l'extrême sud de la France sera au sec. Ce matin, il fait 7 degrés à Lille, 9 degrés à Paris et à Lyon, entre 11 et 12 degrés près de la Méditerranée. 6h40.